J'ai la vie d'un homme qui était reconnu pour être un encourageur. Je crois qu'il était le meilleur ami de tous et probablement le chrétien le plus populaire de son époque, à l'époque de l'Église primitive. Et en étudiant sa vie, nous pouvons apprendre comment encourager les autres de façon durable. Alors, moi, ça m'a encouragé de préparer le message. Il va être en deux, trois ou quatre parties. On va aller pour une première partie ce matin. Je vous invite à tourner dans Actes chapitre 4, versets 36 et 37. Actes chapitre 4, versets 36 et 37. Donc, ce matin, je vais essayer de m'en tenir à mes notes. Il est déjà assez tard. Donc, on va essayer de ne pas trop se voyager. Si vous permettez, je vais enlever... non, je ne peux pas l'enlever. Ah oui. Ah oui, le micro. Versets 36 et 37. Par exemple, Joseph, un Lévite, né à Chypre, que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie l'homme qui encourage, ou le fils de la consolation, ou le fils qui encourage, vendit un champ qu'il possédait, apportait l'argent et le remit aux apôtres. Et dans Actes chapitre, au verset 36, ici, il est écrit que Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, était un Lévite qui était originaire de Chypre. Et lorsque nous lisons verset 36 c'est un surnom qu'il avait reçu des apôtres, eh bien, cela signifie que ce n'était pas un prénom qu'il avait reçu de ses parents, mais qu'il avait bien reçu de ses apôtres, des apôtres, qui, lorsqu'il le regardait, disait, regardez comment il encourage les autres, nous allons lui donner le surnom de Barabbas, ce qui signifie celui qui encourage, celui qui console. Voici un homme qui avait un don, frères et sœurs, et son don, c'était celui d'encourager les autres. Barnabas était un encourageur. Êtes-vous un encourageur ce matin? Êtes-vous une encourageuse ce matin? Pardon? Amen. OK, voilà. En mot grec, pour encourager, le même mot qui est utilisé par Jésus pour décrire la venue du Saint-Esprit à ses disciples. Il l'appelle le paraclète, hein, et ce qui signifie quelqu'un qui est appelé à vos côtés pour vous soutenir, pour vous aider. Et Barnabas fut le premier chrétien à avoir reçu le ministère d'encouragement. Voici donc un homme qui fait pour les autres ce que le Saint-Esprit fait pour les enfants de Dieu qui vit en nous, pour nous encourager, pour nous réconforter, pour nous donner de l'espoir, pour nous aider et pour nous relever quand nous tombons. Et nous avons tous besoin, un jour ou l'autre, d'être encouragés, n'est-ce pas? On va prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce ce matin pour ta parole, Seigneur, qui est esprit vie. Seigneur, tu connais les besoins de tous et chacun ici présent dans cette salle ce matin. Que par ton Saint-Esprit, Seigneur, tu puisses pénétrer les cœurs, que tu puisses répondre aux besoins de chacun. Seigneur, parce que nous savons que tu es présent dans ce lieu, car tu as dit que là où deux ou trois sont ressemblants à ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous voulons vraiment que l'homme s'efface, que toi tu y prennes toute la place qui te revient, parce que ce n'est pas la parole d'un homme, c'est ta parole que nous voulons entendre. Et Seigneur, nous te prions vraiment de pouvoir nous bénir, Seigneur, afin que nous quittions ce lieu avec la certitude, Seigneur, que tu nous auras visités, avec puissance et que ce que nous aurons entendu, Seigneur, eh bien nous appliquions à le mettre en pratique. Et tout cela, c'est dans le beau nom de Jésus que je te prie. Le peuple de Dieu dit, est-ce que vous savez pourquoi le découragement est si mauvais pour l'être humain? Parce qu'un esprit de découragement ouvre les portes à commettre toutes sortes de bêtises, à faire toutes sortes de bêtises. Quelqu'un a dit, le découragement, c'est une chambre noire où les points négatifs de nos échecs sont développés. Saviez-vous que la Bible appelle Dieu? Tournez avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 4. 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 1. 2 Corinthiens, pardon, chapitre 1, versets 3 et 4. Alors, je vais le lire en français courant, si vous permettez. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donne la grâce et la paix. Je remercie sans cesse mon Dieu à votre sujet à cause de la grâce qu'il vous a accordée en Jésus-Christ. Mais ça, c'est pas le bon. Merci. Je suis pas dans le bon livre. Voilà. 3 et 4. Louons Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion, Frères et sœurs, c'est important, le Dieu qui vous réconforte en toute occasion. Et l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, dans la Philippiens chapitre 4, verset 13, dit « Je peux faire face à toutes ces choses par le Christ qui me fortifie. » Toutes ces occasions, eh bien, le Seigneur, on sait qu'il peut nous réconforter. Il nous réconforte dans toutes nos souffrances, afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de souffrances, en leur apportant le réconfort que nous avons nous-mêmes reçu de lui. Et les mots « réconforter », « consoler », « encourager » signifient la même chose. Si Dieu est le Dieu de toute consolation, le diable est l'expert par excellence pour décourager les gens, qui est la principale cause de différents échecs. Bill Glass, qui est un ancien joueur de football qui exerce un ministère dans les prisons aux États-Unis, un jour, alors qu'il prêchait devant 1000 détenus, leur posa la question suivante. « Combien y en a-t-il parmi vous dont le père a dit un jour qu'ils allaient finir par se retrouver en prison? » Presque tout le monde leva la main. Pensez à cela. Leur père leur avait dit, « Un de ces jours, tu vas finir par te retrouver en prison. » Et c'est exactement ce qui leur avait arrivé. Le découragement est une cause d'échec. Il sème le doute et il ne vous rappelle que le mauvais côté des choses ou de ce que vous n'aimez pas en vous. Je ne pense pas me tromper en disant que nous avons besoin de nous encourager les uns les autres. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 14, l'apôtre Paul dit, « Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. » Et lorsque l'apôtre Paul dit « consoler ceux qui sont abattus », il fait référence à ceux qui sont découragés ici parce que leur foi est petite. Et ce qu'il dit ici, c'est d'encourager ceux qui sont découragés. C'est un ordre du Seigneur, c'est un ordre que le Seigneur nous donne, frères et sœurs, à travers l'apôtre Paul. Frères et sœurs, il y a tellement de monde, de gens dans ce monde qui sont indécis et incertains dans toute leur conduite et qui ont besoin d'être encouragés. Et l'Église, frères et sœurs, c'est non seulement des convertis, c'est non seulement des gens qui se sont réconciliés avec le Seigneur Jésus, mais l'Église, c'est une équipe d'encourageurs. On est là pour s'encourager. On est debout aujourd'hui, on peut tomber, on va être content, on va être heureux, on va rendre gloire à Dieu que le Seigneur place un frère ou une sœur sur notre chemin pour nous encourager. En m'appuyant sur la vie de Barnabas, j'aimerais vous donner 5 choses que Barnabas s'est appliqué à faire qui feront de vous un encourageur. Ce matin, on va en avoir seulement que 2. La première, c'est au verset 37. Il a encouragé les autres en mettant à leur disposition ce qu'il avait reçu du Seigneur. Une des choses que Barnabas s'est appliqué à faire pour encourager les autres, c'est qu'il a mis son argent là où son cœur était. Nous lisons verset 37 qu'il vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Frères et sœurs, dans la première église, il y avait beaucoup de pauvres et à de nombreuses reprises, il est arrivé que lorsque les gens venaient à Christ, ils perdaient leur travail à cette époque. De plus, un grand réveil avait éclaté lors du jour de la Pentecôte à Jérusalem et plusieurs personnes qui vivaient dans d'autres villes, dans des villes éloignées, eh bien, avaient donné leur vie au Seigneur Jésus et ils avaient pris la décision de rester à Jérusalem parce qu'ils voulaient être enseignés, vivre en communion avec les autres chrétiens et grandir dans leur foi et dans la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Ils se retrouvaient donc financièrement dans une situation précaire et voyant leur situation, Barnabas va vendre un champ qu'il possédait. Probablement qu'il n'en avait pas besoin, mais il l'a quand même vendu. Il vendre un champ qu'il possédait et donner l'argent aux apôtres afin de leur permettre de rencontrer les besoins des gens. Frères et sœurs, un encourageur, c'est quelqu'un qui voit un besoin qui dit « Je vais donner ce que je peux et je vais faire ce que je peux pour rencontrer ce besoin. » Mais ne pensez pas que vous devez obligatoirement donner de l'argent pour être un encourageur. Vous pouvez ne pas être riche financièrement, parlant, mais chacun d'entre nous a tellement à donner aux autres pour être une source d'encouragement. Permettez-moi de lire ce que j'ai écrit ici. Ceux qui sont malades n'ont pas besoin d'argent, ils ont surtout besoin d'entendre une parole réconfortante. Les personnes qui sont seules n'ont pas besoin d'argent, elles ont juste besoin que nous leur consacrions quelques minutes de notre temps. Les estropiés de la vie n'ont pas besoin d'argent, ils ont juste besoin de trouver une épaule sur laquelle ils peuvent s'appuyer. Ceux qui sont découragés n'ont pas besoin d'argent, ils ont juste besoin qu'on leur consacre un peu de temps pour se sentir aimés. Et frères et sœurs, ça définit le ministère de Jésus-Christ. Et le ministère de Jésus-Christ, c'est le ministère, ça fait partie aussi de notre ministère. On a reçu le Saint-Esprit, on est là pour aider les gens. Le romancier Mark Twain a dit, « Je peux vivre 2 mois sur un bon sentiment qu'on m'a fait. » Parfois, c'est tout ce dont les gens ont besoin. C'est un bon compliment. John Wooden fut l'un des grands entraîneurs de l'histoire du basket universitaire aux États-Unis. En 13 ans, il conduisit son équipe à remporter le championnat à 11 reprises. il avait pris pour lui les paroles de Mark Twain et il trouva un moyen original de s'assurer que ses joueurs mettraient en pratique ce que Mark Twain avait dit. Wooden enseigna à ses joueurs que chaque fois que quelqu'un marquerait un panier, celui qui avait marqué devait sourire, faire un clin d'œil à celui qui avait fait la passe, tout en pointant du doigt celui qui avait fait la passe, pardon. Et lorsque l'entraîneur de Wooden donna ses instructions aux joueurs de son équipe, un des nouveaux joueurs qui venait juste de se joindre à son équipe lui dit, eh bien, c'est bien ce que vous dites, mais si les joueurs de l'autre équipe ne regardent pas, John Wooden répondit, je peux te garantir qu'ils vont regarder. Et il avait raison parce que tout le monde cherchait à être encouragé pour aller toujours plus loin, à se surpasser. Frères et sœurs, dans la parole de Dieu, on passe souvent à côté, hein, mais dans les Épîtres particulièrement, si on enlève les paroles de Jésus, dans les Épîtres en particulier, la parole, elle est remplie de paroles encourageantes. Hein. On s'accroche surtout sur ce qui est négatif, sur ce qui est démoralisant, mais la parole, elle est remplie de paroles d'encouragement. Hein. Quand on dit que Dieu est le Dieu de toute consolation, ouais. Alors on est des encourageurs, mais on n'encourage pas à partir de notre fondement humain, à partir de notre opinion humaine. On encourage les gens à partir de la parole de Dieu. Sinon, on risque de sombrer dans l'humanisme. Ce qui est important, c'est de dire, partager la parole. Quelqu'un qui est fatigué, qui est usé de la vie, Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. » Les gens cherchent le repos dans les médicaments, les gens cherchent le repos à droite et à gauche, dans la boisson, dans la drogue. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, mon joug est léger, dit Jésus. » Contrairement à ce qu'on vous impose, mon joug est léger. Amen. Oui, on a des paroles. Voilà pourquoi c'est important pour nous, en tant que chrétiens de nouveau, de connaître la parole, pour être capable de la transmettre aux autres et d'être des encourageurs. Frères et sœurs, un encourageur, c'est une personne qui ne vit pas pour lui, mais pour les autres. Il essaie toujours de penser à de quelle façon il peut être une source de bénédiction pour les autres, en venant en aide aux autres ou en fortifiant les autres. Si Barnabas avait gardé cet argent pour lui, frères et sœurs, si Barnabas avait gardé cet argent pour lui, on ne parlerait pas de Barnabas ce matin. On n'aurait pas ce verset 36, ni ce verset 37, frères et sœurs. Frères et sœurs, Dieu ne va pas vous demander de donner ce que vous n'avez pas. Cependant, êtes-vous prêts à donner ce que vous avez? Du temps pour aimer, du temps pour aider, du temps pour prier, et du temps pour être au service des autres. C'est ça l'Église, hein? C'est ça l'Église. On peut prier qu'une église, c'est une famille, mais si on n'a aucun contact avec personne, si on ne se visite pas les uns les autres, ça, c'est pas ma définition de la famille, et c'est pas la définition de la parole de ce qu'est une église. Ouais. Est-ce qu'on se visite les uns les autres? Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on prend du temps? Frères et sœurs, un encourageur, c'est quelqu'un qui comprend qu'il est l'intendant de tout ce que Dieu a remis entre ses mains, peu importe ce que cela peut être. Il y a tellement de gens qui ont besoin d'être encouragés dans le monde dans lequel nous vivons. L'apôtre Paul écrit dans Galates chapitre 6, verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez la loi de Christ. Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire, ce verset-là? « Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez la loi de Christ. » Frères et sœurs, quel grand pas à devenir un encourageur si nous disons simplement « Je serai un encourageur en mettant en contribution ce que j'ai reçu de Dieu pour venir en aide à quelqu'un lorsque je vois un besoin, afin que cela puisse encourager celui-ci. » Si vous le faites, frères et sœurs, vous serez un Barnabas pour cette personne. Et frères et sœurs, je suis pas en train d'ébaucher quelque chose de nouveau. Je suis en train de vous parler de Jésus-Christ, parce que c'est ce que Jésus a fait. Il a repris des gens qui vivaient dans le péché, mais Jésus-Christ était un encourageur, frères et sœurs. À ceux qui étaient blessés, à ceux qui lisent sourds, aux aveugles, ainsi de suite. À la femme qui était prise en flagrant délit d'adultère, il l'a encouragée. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus, tu vas être en paix avec le Seigneur, tu vas être en paix avec ton Dieu. Voici le deuxième principe que Barnabas a appliqué dans sa vie. Non seulement il a mis à la disposition des autres ce qu'il avait reçu du Seigneur, mais regardez dans Actes chapitre 9, versets 26 et 27. Tournez dans Actes chapitre 9, versets 26 et 27. Il a encouragé les autres en développant une relation d'amitié avec ceux-ci. Frères et sœurs, Jésus a dit, « Je vous appelle maintenant mes amis. » Nous sommes non seulement des enfants de Dieu, mais en principe, nous devrions être un groupe d'amis. Un groupe d'amis. Regardez ce qui est écrit. Lorsqu'il se rendit, acte 9, versets 26 et 27. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors, Barnabas! Regardez, c'est qui? C'est pas Jean, c'est pas Pierre? C'est pas André? Barnabas! Encore lui! L'ayant pris avec lui! Le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment, à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Frères et sœurs, cela faisait maintenant 3 ans que Paul avait rencontré le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas et qu'il était sauvé. Il avait été formé en secret pour progresser dans le Seigneur afin de le préparer au ministère auquel le Seigneur le préparait. Il était maintenant de retour à Jérusalem. Et laissez-moi vous dire que la nouvelle va se répandre très vite, parce qu'à Jérusalem, Paul, c'est l'ennemi public numéro 1. Hein? Oui, tout le monde y est, celui qui persécutait les chrétiens, il est revenu. Celui qui chassait les chrétiens, qui mettait les chrétiens en prison, il est là maintenant. Parce que les chrétiens considéraient à ce moment-là Saul de Tarse comme étant un homme extrêmement dangereux. Personne ne lui parlait, et à Jérusalem, il était l'homme le plus détesté, le plus craint dans tout Israël. Non seulement à Jérusalem, mais dans tout Israël. Mais ce que nous voyons ici, c'est que Barnabas va le prendre sous son aile, frères et sœurs. Dans le grec, au verset 26, le verbe « tâcher » est à l'indicatif présent, c'est-à-dire que si on lit le verset, Paul essayait et essayait encore d'entrer dans l'Église et de se faire accepter par les chrétiens de l'endroit, mais ils avaient construit un mur que Paul ne pouvait pas franchir. Tout le monde lui avait fermé la porte. Jacques, le frère de Jésus, ne voulait rien avoir à faire avec Saül. Pierre, qui avait les clés du royaume, avait fermé la porte à Saül. Jean, l'apôtre qui parle tant d'amour de Dieu dans son évangile, disait « J'aime tout le monde sauf Paul ». André, qui aimait habituellement présenter les gens à Jésus, a dit « J'oublie ça pour ce qui concerne Paul ». Mais Barnabas, frères et sœurs, Barnabas, un encourageur. Vous savez, c'est quoi un encourageur? C'est quelqu'un qui se met à la place de l'autre. C'est ça, avoir de la compassion, hein? C'est d'être capable de se mettre à la place de l'autre. Et quand quelqu'un souffre, on est capable de souffrir avec lui. Oui. On ressent ce que cette personne-là ressent. Et Barnabas, il voit ici que Paul, il doit se sentir, mais terriblement seul. Hein? Non seulement ses anciens amis l'ont laissé tomber, mais ses nouveaux amis, c'est des chrétiens, eh bien, ils ne veulent pas avoir de contact avec lui. Alors, vous imaginez comment il devait se sentir seul, le pauvre Paul. Et qu'est-ce que Paul... Regardez ce qui est écrit... Regardez ce qui est écrit au verset 27. « Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Paul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment, à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. » Qu'est-ce que Barnabas était en train de faire ici, frères et sœurs? Barnabas était en train de manifester son amitié envers quelqu'un, comme je le dis, qui doit se sentir très seul. Il encourage Paul en lui démontrant beaucoup d'amour et qu'en fait, il est en train de lui dire non seulement « Moi, je te dis que je t'aime, mais je suis ton ami, je vais te démontrer que je suis ton ami. » Paul avait besoin de que quelqu'un lui montre qu'il l'aimait. Les ponts étaient coupés avec ses anciens amis, et ceux, encore une fois, qui étaient censés être devenus ses nouveaux amis, avaient peur de lui. Paul était vraiment pris entre deux feux. Barnabas n'a jamais soulevé dans le passé, et ça, c'est un encourageur, Barnabas n'a jamais soulevé dans le passé la vie de Paul. Il n'a jamais fait allusion aux erreurs que Paul avait commises. Il n'a jamais dit, attention, je sais que c'est un meurtrier, les amis. Je sais que c'est un blasphémateur. Je sais qu'il a cherché à détruire l'Église dans le passé. Et je sais qu'il a mis plusieurs d'entre vous en prison. Non. Frères et sœurs, Barnabas était capable d'oublier comme Dieu oublie. Ouais. Pardonner comme Dieu pardonne. C'est ça, un encourageur. Ouais. Quand on dit que Dieu oublie, c'est simplement que Dieu ne ramènera pas à surface ce que tu as fait dans le passé, hein. Ça, c'est ça, le pardon, hein. Et Barnabas, c'est la même chose. Il n'est pas là pour rebrasser finalement tout ce qui sentait mauvais de la vie de Paul. Hein? Non. Paul, c'est maintenant un frère en Jésus-Christ pour nous. Sa vie passée, elle est passée. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles pour lui. Non, il n'a rien dit de tout cela parce que Barnabas était un encourageur. Et les encourageurs ne regardent pas en arrière, ils regardent en avant, ils regardent vers leur futur. Barnabas ne s'est pas arrêté sur ce que Paul avait fait dans le passé. Il a regardé à ce que Dieu pourrait faire à travers Paul dans le futur. Et c'est comme ça qu'on doit voir nos frères et sœurs en Christ. Frères et sœurs, on a tous des expériences qui sont épouvantables. On a tous des péchés qu'on voudrait que personne connaisse qu'on a commis dans le passé. Ouais. Mais ça, c'est terminé. L'encourageur, il regarde vers le futur. Il regarde ce que Dieu peut faire à travers cette personne-là. Parce que si cette personne-là est née de nouveau, elle a reçu un don spirituel, et ce don spirituel est là pour le bénéfice de l'Église locale. Amen. C'est important, ça. Barnabas a dit à ses frères en Christ, ne regardez pas à cet homme et à ce qu'il était, regardez à cet homme pour ce qu'il est maintenant. Merci Seigneur pour le ministère d'encouragement de Barnabas. Faisons attention, nous sommes appelés à encourager les gens, mais faisons-le de manière à ne pas finir par les décourager. J'ai entendu parler d'un petit garçon qui, après la réunion du dimanche matin, alla trouver le pasteur en lui disant, « Pasteur, lorsque je serai grand, je serai médecin et je ferai beaucoup d'argent. Et si je réussis, je vais vous donner beaucoup d'argent, pasteur. » Le pasteur lui dit, « Bien, fiston, c'est très gentil, très généreux de ta part, mais pourquoi veux-tu me donner autant d'argent? » Le jeune garçon répondit, « Parce que mon père dit que vous êtes le plus pauvre type qu'il a jamais entendu prêcher dans sa vie. » Et puis, je prends juste un moment. Nous rassemblons cet homme qui se sentait mal et qui dit à sa femme, « Chérie, je me sens vieux, flasque, ridé, inutile et stupide. » Alors, sa femme, elle regarde en souriant et lui dit, « Ne sois pas stupide, tu n'es pas vieux. » Tu n'es pas vieux. Puis, je prends juste un moment ici pour nous encourager à être des encourageurs. Lorsque les gens viennent à l'Église, ils devraient trouver des ponts pour entrer en contact avec des barrières qui sont tombées, pour empêcher, qui empêchent les barrières, qui empêchent les gens d'avoir une relation les uns avec les autres. Chuck Colson, je ne sais pas si vous connaissez Chuck Colson, ceux qui ont mon âge, ils doivent connaître ça. Il était pris dans le scandale du Watergate où le président Nixon a dû démissionner. C'est le seul qui a eu justement un vote d'impeachment et qui a dû démissionner pendant son mandat de président américain suite à des actions illégales. Chuck Colson a été finalement jugé, a comparu devant les tribunaux. Il a été trouvé coupable. Il a fait sur plusieurs années qu'il devait faire en prison. Finalement, on lui a fait faire 7 mois. Mais suite à ce scandale, et on connaît pas les voies de Dieu, hein. C'est en prison, finalement, qu'il a accepté le Seigneur Jésus-Christ. En politique, il était tellement véreux que jamais il aurait accepté le Seigneur. L'argent, il tombait, il avait juste à tendre les mains, les billets, les liasses de billets lui tombaient dans les mains. Et il a dû faire un séjour en prison pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Personne ne lui parlait, hein. Ses amis ne lui parlaient pas en politique, surtout ceux qui étaient en politique, parce qu'il avait dû dénoncer des choses. Et les chrétiens qui étaient devenus ses nouveaux amis le craignaient parce qu'ils pensaient qu'il faisait semblant de s'être converti et qu'il pratiquait maintenant la religion pour éviter une lourde peine de prison. Mais voilà, certains amis chrétiens des Barnabas vinrent le trouver, l'entourèrent avec beaucoup d'amour et l'encouragèrent à persévérer dans sa nouvelle vie qu'il avait trouvée en Jésus-Christ. Après avoir passé, comme je l'ai dit, quelques mois en prison, Dieu l'appela à œuvrer parmi les milliers de détenus dans les prisons américaines. Il a fait le tour du monde dans différentes prisons, il a donné des conférences partout. Dieu s'est glorifié à travers cette personne qui a vu jusqu'à quel point Dieu avait eu pitié de lui avec tout ce qu'il avait fait de corrompu. Vous savez, ils ont fait de l'espionnage sur le Parti démocrate. Ils ont installé des micros dans les bureaux du Parti démocrate. Mais c'était scandaleux à l'époque. Ça a fait un scandale incroyable, quoi. Alors, ce gars-là, il devait se sentir très bas. Mais par reconnaissance envers le Seigneur, il a accepté le ministère que Dieu lui a donné. Et il partageait l'amour de Jésus-Christ pour lui. Et Chuck Colson, c'était vraiment, vraiment un encourageur. Beaucoup de gens sont venus à la connaissance de Jésus-Christ grâce à son ministère. Il est mort en 2012, mais c'était tout un homme. Les psychologues nous disent que 70% de la population souffre de solitude chronique. Ça paraît énorme, n'est-ce pas? Vous savez ce que ça veut dire, ça? 7 personnes sur 10 que vous rencontrez dans la rue, c'est des personnes qui, en principe, souffrent de façon chronique de solitude. Paul fut incorporé parmi le groupe de chrétiens par un homme qui s'appelait Barnabas. Voici ce qu'il écrit dans Romains chapitre 15, versets 5 à 7. « Que le Dieu de la persévérance et de la consolation, cela s'appelle encourager. Ouais. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation. Frères et sœurs, si vous perdez courage parce que vous tombez de temps en temps, on est avec le Dieu de la persévérance. Dieu ne vous lâchera jamais si vous lui appartenez, frères et sœurs. Dieu ne vous lâchera jamais. Ouais. Dieu va persévérer. Il va vous maintenir la tête hors de l'eau parce qu'il a toujours le bras tendu pour vous amener à avancer et non pas à vous renfoncer. Dieu n'est pas là pour vous mettre la main sur la tête pour vous renfoncer. Dieu est là pour tendre le bras, pour vous sortir et dire, allez, on continue, on fait un bout de chemin. Tu m'appartiens, on continue, on fait un bout de chemin. C'est encourageant, ça ou pas? On doit faire la même chose en Église. La même chose en Église. On n'est pas là pour écraser les gens en tant que chrétien. On est là pour avoir la main toujours tendue, pour marcher avec ceux qui souffrent, pour compatir avec ceux qui vivent de graves problèmes. Ça, c'est le rôle du chrétien. Ça. C'est un ministère, mais c'est le rôle du chrétien aussi. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Accueillez-vous donc les uns les autres. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Le culte ce matin, il est dédié pour la gloire de Dieu. Nos vies sont dédiées pour la gloire de Dieu. Amen. Ouais. Et alors, vous accomplirez parfaitement la loi de Christ. Paul savait ce que c'était de se sentir bien accueilli et accepté. Il savait ce que c'était que d'être encouragé. Frères et sœurs, vous avez beaucoup plus que de l'argent à donner. Vous pouvez donner votre amitié. Pourquoi ne pas demander à Dieu qu'il vous donne une nouvelle personne à encourager dans l'Église? Un chrétien né de nouveau, parce que les nouveaux bébés dans le Seigneur ont besoin de recevoir de l'amour de leurs membres, de l'amour des membres et de leur nouvelle famille. John Stossel est un journaliste et animateur de télévision américain qui travaille sur Fox TV. Il a produit un documentaire dans lequel il disait que des bébés âgés de plus ou moins un an suivaient des sessions de psychothérapie avec des experts dans le domaine parce que ces bébés étaient blessés émotionnellement. Un an, un peu plus d'un an. Vous savez ce qu'il y avait? Il n'avait eu, pour une raison quelconque, depuis qu'ils étaient au monde, aucun contact visuel avec qui que ce soit. Ça veut dire que les mamans changeaient les couches, ils parlaient avec quelqu'un d'autre, ces bébés n'ont jamais croisé le regard d'une personne. Ils n'avaient jamais été pris dans leurs bras, ni même embrassés, ou reçu même une seule caresse. Et ces bébés avaient développé à un âge aussi précoce des problèmes psychologiques. Ils montraient même des statistiques. En tout cas, l'animateur montrait même des statistiques qui mettaient clairement en lumière que ces bébés qui n'avaient pas reçu d'amour dans les deux premières années de leur vie grandissaient en adoptant une attitude froide et indifférente, parfois même brutale, à l'égard de leurs semblables. Voici maintenant le pire dans tout ça, frères et sœurs. Ce documentaire termine en disant ceci: il est pratiquement impossible de gâter un enfant la première année de sa vie. Vous ne lui donnerez jamais assez d'amour. Vous finirez peut-être par gâter vos enfants à un âge plus avancé, mais il est pratiquement impossible de gâter un bébé la première année de son existence. Tout l'amour, toute l'attention, tous les bisous, toutes les étreintes, toutes les caresses que vous voulez lui donner, ne vous en privez surtout pas. Par conséquent, j'aimerais terminer en disant ceci. Il est pratiquement impossible de gâter un chrétien qui vient naître de nouveau. Ce chrétien qui est né de nouveau, qui vient de naître de nouveau, ce bébé dans le Seigneur, il a besoin qu'on le regarde affectueusement. Il a besoin qu'on le serre dans nos bras. Il a besoin qu'on lui adresse des paroles d'amour. Il a besoin de se sentir aimé. Il a besoin de recevoir ce que ces bébés qui vivent des problèmes psychologiques n'ont pas reçu parce qu'on a négligé. On les a négligés. Frères et sœurs, dans le domaine spirituel, ça s'applique aussi. Ces bébés dans le Seigneur ont besoin de se sentir acceptés. Les gens qui rentrent dans les églises ont besoin de se sentir acceptés, accueillis, frères et sœurs. Ouais. Parce que si nous, on n'est pas capable de démontrer ça, ce que nous avons de reçu de Jésus, il n'y a personne d'autre dans le monde qui peut leur montrer, qui peut leur manifester cet amour que nous avons reçu de Jésus-Christ. Faisons comme Barnabas. Encourageons les autres en mettant à leur disposition ce que nous avons reçu du Seigneur. Encourageons-les en développant une relation d'amitié avec eux. Frères et sœurs, on a un Dieu extraordinaire. On a un Dieu qui est merveilleux. On a un Dieu qui nous a aimés. Il nous a aimés, il a pu aller jusqu'au bout parce qu'il y avait une grande compassion pour les perdus. Jésus avait cette compassion pour les gens à son époque qui erraient, qui était sans berger. Frères et sœurs, que notre prière ce matin, ça puisse que le Seigneur nous donne cet esprit de compassion, afin qu'on devienne comme Barnabas, des encourageurs. Vous vous imaginez une église qui est remplie de Barnabas, que ça peut faire? Vous vous imaginez? Il y a des gens qui vont aller vous trouver pour vous partager un fardeau. Ils vont le faire parce qu'ils n'auront pas peur d'être jugés par vous, mais parce qu'ils vont se sentir aimés, parce qu'ils se sentent aimés par vous et qu'ils savent que vous avez de la compassion pour eux, que vous allez les réconforter, vous allez les encourager à poursuivre leur pèlerinage terrestre. Amen. Oui. Frères et sœurs, qu'on soit des Barnabas. Des Barnabas. L'Église aujourd'hui a besoin de Barnabas dans ce monde qui subit blessure après blessure, jour après jour. Que toute la gloire en revienne au Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à vous lever. On va inviter les musiciens. On va chanter un cantique.